Bonjour, ici Marthe Saint-Laurent, bienvenue à Terre de Femmes. Cette semaine, nous passons une heure complète avec une femme d'inspiration. Elle a passé son adolescence en famille d'accueil, puis est devenue intervenante sociale et a été coordonnatrice clinique pour la DPJ. Sommes heureux d'accueillir Hélène Fortier, résiliente et intègre. Mais tout de suite avant, nous allons à la pause musicale.
Soliloque autour la semelle de mes bottes quand elle se frotte au pavé des ruelles. On m'a dit que le doute, c'est le bon Dieu qui clignote, mais ma foi est fébrile comme une chandelle. La foule est ventriloque à couvert, on chuchote. C'est dans la pénombre que la lumière est belle. C'est dans la pénombre que la lumière est belle. Une nuit ou une vie cerne mes yeux déjà flous, au reflet vert de gris et cruel. Le sel des glaciers sur la couleur de mes joues, même si personne ne nous cherche querelle. Et la gorge qui rit et les mains dans la boue, c'est dans le brouillard qu'une rencontre est belle. C'est dans le brouillard qu'une rencontre est belle. Alors j'apprends à me tenir debout. Oui, j'apprends à me tenir debout. Je n'ai rien contre personne et je tendrai l'autre joue. J'apprends à me tenir debout. Défaite qui vaut toutes les victoires quand nos propres désirs nous ensorcellent. Parfois l'homme se rachète en se servant à boire. Je n'ai pourtant rien d'un criminel. Et Amélie qui demande si on rêve ou si on dort. C'est dans le silence qu'une réponse est belle. C'est dans le silence qu'une réponse est belle. Alors j'apprends à me tenir debout. Oui, j'apprends à me tenir debout. Je n'ai rien contre personne et je tendrai l'autre joue. J'apprends à me tenir debout. Oui, j'apprends à me tenir debout. Oui, j'apprends à me tenir debout. Je n'ai rien contre personne et je tendrai l'autre joue. J'apprends à me tenir debout.
Nous écoutions Fred de Pellerin, Tenir debout. Alors, nous accueillons Hélène Fortier, adolescente blessée, femme responsable, résiliente et altruiste. Elle est intervenante sociale, a été technicienne en éducation spécialisée, intervenante de crise et coordonnatrice clinique pour la DPJ. C'est avec un immense plaisir, Hélène, de te recevoir à notre studio. Bienvenue à Terre de Femmes.
Bien, merci beaucoup et merci pour l'invitation, c'est gentil.
C'est un pur plaisir, je pense que tu es une femme d'inspiration, on va voir ça au cours de l'émission. Hein. Alors, l'adolescente blessée, en fait, toi, tu as eu un événement qui a changé le cours de ta vie à l'âge de 12 ans.
Oui. Effectivement, à l'âge de 12 ans, en fait, ma mère a tenté de se suicider. Et ben en fait c'est moi qui l'ai trouvé. Puis à l'époque, on parle des années 70, en fait en 72 précisément. Mon père biologique travaillait sur les chiffres, on parle de 8 à 4, 4 à minuit, minuit à 8. Donc ça prenait comme 6 fins de semaine avant d'avoir une fin de semaine. Puis je suppose, parce qu'il nous l'a jamais dit, nous les enfants, mais que c'est à cause de ces horaires-là que c'était difficile d'avoir une gardienne pour s'occuper de nous. Alors, on a été placés en famille d'accueil.
Après cette tentative de suicide-là.
Oui, parce que ma mère a été en psychiatrie là, pendant longtemps.
Mm-hmm. Et tu as fait combien de familles d'accueil?
Au total, j'en ai fait deux.
OK.
Oui, deux, mais pas, je sais pas, là, en fait, les services sociaux, à l'époque, la DPJ n'existait pas, c'était les services sociaux.
Oui. C'était des familles, ils plaçaient dans une famille,
oui.
C'est ça?
Oui, un peu le principe un peu de la DPJ, dans une famille d'accueil qui appelle, là. Mm-hmm. Mais en fait, les deux familles où j'ai été, j'étais pas bien, les critères... j'espère, j'ai travaillé à la DPJ, oui, mais dans une communauté autochtone. Fait que je sais pas si au niveau des allochtones, c'est mieux géré là, mm-hmm. que les services sociaux à l'époque. Là, mais pendant tout le temps où j'ai été placée, à partir de l'âge de 12 ans jusqu'en fait, j'ai jamais été reprise par mes parents. Là, ben, j'ai vu la travailleuse sociale que deux fois. Là,
au moment
où elle est venue me chercher puis quand elle m'a déplacée de place.
C'est ça aussi. Hein? Quand tu dis « mon père nous a placés », c'est que tu n'étais pas enfant unique.
Non. On était trois enfants.
Trois enfants. Donc, les trois étaient placés dans des familles différentes?
Oui. La première famille que j'ai faite, moi, j'étais la plus vieille. Mm-hmm. J'ai été placée avec mon petit frère, puis ma sœur a été placée dans une autre famille. Mais même la façon dont ça s'est fait, c'était inhumain. En fait, notre père nous en avait jamais parlé. Une journée, le téléphone a sonné. C'était la travailleuse sociale qui me disait en fait de préparer nos choses qu'on s'en allait. Mm-hmm. Je sais pas, probablement, tu sais, je regarde mes enfants, mes petits-enfants aujourd'hui, je me dis, mais voyons, ils seraient jamais partis avec une étrangère, mais probablement que la situation faisait qu'on a compris qu'il fallait le faire. Là. Fait qu'on a été placés dans des familles différentes là, la première fois. Puis dans le deuxième, quand on a été changé de place, qu'ils se sont rendus compte qu'on n'était pas bien, en fait, dans le premier foyer, bien, mon frère et moi, on a été séparés aussi.
OK. Donc, et ça a pris combien de temps avant que tu changes de famille?
La première famille, ça a pris, en fait, 9 mois.
OK.
Puis je pense que c'est lors d'une... Je crois que le déclencheur, en fait, qu'ils se sont rendus compte qu'on n'était pas bien, bien, il y avait eu des événements, entre autres, à un moment donné, je filais pas un matin, puis là, la dame m'a obligée d'aller à l'école pareil, puis là, j'ai dit, ben non, j'ai mal au ventre, puis mais c'est rendu à l'école, ils ont vu que j'allais pas bien, fait qu'ils ont téléphoné, fait que là, j'avais peur d'être chicanée parce mm-hmm. que on m'avait dit qu'il fallait que je sois à l'école. C'est finalement une voisine de cette dame-là qui m'a amenée à l'hôpital où j'ai été opérée d'urgence pour l'appendice. Là. Fait que, tu sais, je fakeais pas, mais on nous croyait pas. Là, tu sais. Mm-hmm. Fait que ça a été, ça a été des moments comme ça. Puis à un moment donné, en visite chez mon père, j'ai demandé, est-ce que je peux amener des draps? Fait que j'ai dit, pourquoi des draps? Mais tu sais, on était là 9 mois, puis jamais on a changé notre lit, là, ne pouvait le changer. Mon frère et moi, on couchait dans la même chambre. J'avais quand même 12 ans, lui 7 ans. Là. Donc, je pense que c'est là qui a été le déclencheur qui ont dit on les change de là, ils sont pas bien.
Puis là, vous avez changé de famille, puis la deuxième famille était pas mieux. Toi, tu t'es retrouvée seule?
Oui, je me suis retrouvée seule dans une famille où il y avait, en fait, c'était un couple, là, une dame, son conjoint, puis à l'époque, il y avait... une fille, mais il y avait d'autres enfants en famille mm-hmm. d'accueil. Mais là aussi, j'ai vécu, en fait, de la négligence, plusieurs abus de toutes sortes, là, entre autres de la violence psychologique là, pour un événement à un moment donné. Là, la dame, elle a été un an sans me parler.
Elle ne te répondait pas.
Elle ne me parlait pas du tout. Vraiment pas du tout. Là. Elle a été... pas mon prénom. Là,
attends, donc, tu as été une année à ne pas te faire regarder, adresser la parole, ni rien.
C'est ça. T'sais,
donc, ignorer pendant une année.
Oui. Fait que c'est difficile, ça.
Oui, surtout à l'adolescence. Oui. Là, t'es rendu à quel âge quand ça se passe?
J'ai à peu près 14-15 ans.
OK. Et là, coup de théâtre, ton père, il reprend ton frère et ta sœur, mais pas toi.
Oui, c'est ça. En fait, effectivement, mon père a refait sa vie. À un moment donné, il a rencontré quelqu'un qui, elle avait deux filles de mon âge. C'était des jumelles. Et puis, je pense que d'un commun accord, il avait décidé de reprendre mon frère. Parce que dans le foyer où lui vivait, il semblerait, en fait, qu'il n'y avait rien à manger dans le frigo. Oh, okay. Wow. Fait que, ils ont décidé ça, mais là, finalement, ils ont appris par la suite que dans le foyer nourricier où ma sœur était abusée sexuellement.
Oh, mon Dieu.
Fait que là, ils se sont dit, on va la prendre elle aussi, tu sais. Fait que, c'est ça, ils ont repris tous les deux, mais pas moi. En fait, ils m'ont pas repris parce que j'allais bien. Pour eux, j'allais bien.
Oui.
Mais j'allais bien, en fait. Ça a joué contre moi parce que moi, ce que
Tu voulais être bien pour qu'ils te reprennent.
Oui, puis... c'est ça. Je voulais pas être de trouble. Mm-hmm. Tu sais, fait que depuis l'âge de 12 ans, en fait, que je paye mes vêtements, que je m'organise tout seul, qu'à l'école, j'ai performé parce que je me disais, je veux pas être de trouble. Fait que. Mais ça a joué contre moi parce que les autres se sont dit, ben, elle va bien.
OK. Fait qu'on la reprend pas. Fait que t'as vécu encore du rejet encore plus.
Oui, oui, effectivement. Puis ma sœur, ça n'a pas fonctionné chez mon père et sa nouvelle conjointe. Fait que là, à un moment donné, plutôt que ça n'a pas fonctionné. Fait que ma mère, qui allait quand même mieux mentalement, l'a repris. Mais moi, ni un ni l'autre, jamais on m'a repris. Là,
puis est-ce que t'as su pourquoi?
Parce que j'allais bien, puis c'est ce que m'ont dit, mais tu sais, j'ai pas vraiment retourné, puis ressassé ça, puis questionné ça. Tu sais, ma mère a été fragile mentalement quand même pendant longtemps, donc, puis j'avais aucun pouvoir sur le passé. Puis, tu sais, c'est souvent vu, c'est comme, ben c'est ça, tu veux brasser de la chenoute, tu sais, mais c'est pas le cas, tu sais, t'as besoin de réponse, puis t'en as pas.
Puis t'en as pas encore aujourd'hui?
Non.
Non, c'est toujours pas... bon, ben écoute, Hélène, reste avec nous, on va écouter Zaz, Si jamais j'oublie.
Rappelle-moi le jour et l'année. Rappelle-moi le temps qu'il faisait. Et si j'ai oublié, tu peux me secouer. Et s'il me prend l'envie de m'en aller, enferme-moi et jette la clé. Cure de rappel, dis comment je m'appelle. Si jamais j'oublie les nuits que j'ai passées, les guitares et les cris, rappelle-moi qui je suis, pourquoi je suis en vie. Jamais j'oublie les jambes à mon cou si un jour je fuis. Rappelle-moi qui je suis, ce que je m'étais promis. Rappelle-moi mes rêves les plus fous. Rappelle-moi ces larmes sur mes joues. Et si j'ai oublié, bien j'aimais chanter. Si jamais j'oublie les nuits que j'ai passées, les guitares et les cris, rappelle-moi qui je suis, pourquoi je suis en vie. Si jamais j'oublie les jambes à mon cou, si un jour je fuis, rappelle-moi qui je suis, ce que je m'étais promis. Oh, passer les guitares et les cris. Rappelle-moi qui je suis, pourquoi je suis en vie. Appelle-moi le jour et l'année.
Nous discutons avec Hélène Fortier, femme d'inspiration, intervenante sociale. Alors Hélène, on s'est laissé avant Zaz sur le fait que tu, en fait, ton père et ta mère t'ont jamais repris, mais ont pris ta sœur et ton frère. Alors ce que ça a fait, c'est que tu es devenue une femme plus que responsable. Tu es devenue extrêmement responsable parce que depuis l'âge de 12 ans, tu t'arranges parce que tu veux être bonne, tu veux être reprise. Donc, qu'est-ce que ça dit, cette responsabilité-là?
En fait, c'est des grandes responsabilités parce que, tu sais, pour avoir travaillé longtemps dans un milieu scolaire, avoir moi-même eu des enfants, tu sais, c'est beaucoup de responsabilités d'avoir à s'occuper de soi à 12 ans puis de prendre des décisions. Fait que ça a eu beaucoup d'impact. Dans ma vie, oui, je suis devenue super responsable. Au travail, je suis une fille axée sur la tâche. Je suis une fille perfectionniste, tu sais. Oui, ça peut être bon dans certaines sphères, mais dans, tu sais, en fait, je suis devenue perfectionniste pour être acceptée, pour être aimée. Mm-hmm. Puis on le sait que ça n'a pas tout le temps, en fait. C'est pas pour les bonnes raisons, en fait. Fait que, puis performer effectivement à l'école. Mais tu sais, ça a eu d'autres impacts aussi, de ne pas se sentir importante pour personne ou presque, de ne pas vouloir déranger, même si je ne dérange pas. Parce que tu sais, quand tu es en famille d'accueil ou quand tes parents ne te reprennent pas, en fait, c'est comme tu fais pas partie de la famille. Tu es l'enfant placé.
T'es
à part. Tu sais, mettons, quand ils écoutaient la télé puis ils mangeaient du popcorn, bien, tout le monde était sur deux fauteuils, mais les enfants placés, on était par terre, assis sur le ciment. Tu sais, c'est...
Ouais.
Fait que, tu sais, c'est des choses comme ça. Souvent, tu sais, de sentir de trop ou sentir trop où t'es pas assez fine, t'es pas assez belle, t'es pas assez intelligente pour mériter, en fait, ce que les autres ont. J'ai développé aussi, je travaille encore là-dessus, je m'auto-rejette.
Ah bon?
Oui, ça arrive que quand je vais à un endroit puis que je sens que peut-être que j'ai pas ma place, ben je décide que je m'en vais. Quand j'étais enfant, j'avais pas le choix. À ce temps, j'ai de rester puis où je pouvais aller quand tu n'as pas de parents qui veulent de toi dans ta tête, où tu peux aller. T'sais.
C'est comme si maintenant tu utilises la liberté que tu n'avais pas à l'époque, parce que sûrement à l'époque tu aurais aimé et tu aurais voulu partir, mais tu pouvais pas parce que tu étais enfant. Et là tu peux, donc tu sens que tu n'es pas accepté, tu dis là je peux partir. C'est comme une forme de liberté que tu t'octroies.
Oui, mais c'est s'octroyer le pouvoir que j'ai. Avant je sentais que j'avais pas de pouvoir, là c'est comme mais là je peux le faire quand je veux. T'sais.
Mais ça c'est vrai que c'est pas toujours gagnant parce que tu peux des fois partir d'un endroit où que ta vision est... Ton intuition, tu penses qu'elle est, elle est bonne ou elle est biaisée par justement cette adolescence-là
Généralement, elle est biaisée. C'est pour ça que je dis que je travaille encore là-dessus. Parce que, en fait, ça a des impacts. Tu sais, la mésestime de moi, tu sais, ça a été très présent longtemps. Je sais que l'estime de soi, en fait, tout le monde, ben, surtout les femmes, on a beaucoup à travailler ça. On a des périodes où ça va bien, puis il arrive deux, trois événements, puis là, on n'est pas belle, on n'est pas fine, on n'est pas ci, etc. Puis quand tes parents, c'est ça, te reprennent pas, ben c'est comme tu mérites pas.
Ouais.
Fait que tu sais, il y a comme ça a un impact, là, tu sais.
C'est comme si ton sentiment de je suis pas belle, je suis pas fine, ils venaient te conforter là-dedans par leur indifférence ou leur rejet. En fait, c'est du rejet pur et dur.
Oui, c'est ça, effectivement. Ça m'a amené aussi à faire des mauvais choix amoureux dans ma vie, de choisir des personnes, des hommes qu'il faut que je sauve et ou qui sont pas capables de s'engager vraiment, là, tu sais.
C'est ça, fait que t'as comme le syndrome de la sauveuse.
Oui.
On rit, mais c'est pas drôle, mais je veux dire, il y a plein de gens, surtout des femmes, hein, qui ont ce syndrome-là de sauver, parce que probablement que toi, t'as pas été sauvée, donc tu veux sauver. Où tu es habitué en étant tellement responsable de sauver les autres parce que c'est toi la plus grande, c'est toi la plus mature, c'est toi la plus... Est-ce que c'est comme ça que tu vois la chose aussi?
Bien, en fait, c'est aussi... Puis, tu sais, c'est en lien aussi avec le travail que je fais aujourd'hui. Oui. Tu sais, je me suis en allée là-dedans. C'était pas conscient. Au début, je m'en suis rendu compte au fur et à mesure que j'avançais dans ma pratique. Mais, tu sais, ça a fait de moi... Puis, tu sais, je veux pas me plaindre. Tout ce que j'ai vécu m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui. Mm-hmm. Puis d'être l'intervenante que je suis aujourd'hui, oui. qui fait, j'en suis sûre, une différence, tu sais. Mm-hmm. Fait que, tu sais, ça m'a permis ça. J'ai longtemps aussi, puis par moment, là, tout dépendant de la hauteur de l'estime, de la difficulté à croire qu'on m'aime. Quand on dit qu'on m'aime, je suis belle ou je suis fine, de la misère à le croire, je pense que les gens disent ça pour me faire plaisir, oui. pour être fin avec moi, tu sais.
Alors que souvent, les gens connaissent pas ton histoire, donc c'est pas pour te faire plaisir, c'est pas pour dire « Ah, oh, ben, Lynn... » Elle a eu dur, on va lui dire qu'elle est belle ou qu'elle est fine. Souvent, ça n'a aucun rapport, les gens ne le savent pas.
Non, effectivement.
Mais c'est quoi, tu peux pas t'attribuer de l'amour parce que d'autrui parce que tu n'en as jamais reçu, tu n'en as jamais eu?
C'est dur à recevoir. C'est dur à recevoir, puis c'est comme si je sais pas... Oui, c'est comme si je sais pas quoi faire avec ça. Puis est-ce que je le mérite vraiment?
OK, on est dans le mérite.
C'est ça, tu sais. Oui, c'est beaucoup, beaucoup dans le mérite, tu sais. Mm-hmm. Est-ce que je le mérite vraiment, tu sais? Fait qu'il faut que je fasse attention à ça.
Oui, comme tu es responsable, tu es habitué de te gérer seul.
Oui.
De compter seulement sur toi parce que tu as appris jeune que tu ne peux pas compter sur l'extérieur. Donc, en étant tellement responsable que la seule chose que tu peux recevoir, il faut que ça vienne de toi peut-être.
Mm. Puis de la misère à recevoir, puis ça a joué, tu sais, dans mes relations amoureuses, j'ai plusieurs, en fait, hommes qui m'ont choisi parce que j'étais autonome, j'étais responsable.
Ouais, autonome et indépendante, hein?
C'est ça,
ouais.
Mais ils m'ont quitté pour les mêmes raisons.
OK, parce qu'ils
pouvaient pas comme faire, tu sais, je demande pas, je suis tellement habituée de faire mes choses seule, je demande pas, c'est comme, ben, pourquoi tu ne l'as pas demandé?
Mm-hmm. Tu ne penses pas ou tu ne veux pas que dépendre de personne?
Je ne veux pas rien devoir à personne. C'est ça. Mm-hmm, mais mm-hmm. C'est moins présent, mais ça a été présent quand ça, même. Oui.
Puis qu'est-ce que ça aurait fait, Hélène, si tu avais dû quelque chose à quelqu'un? Est-ce que ça aurait été grave pour toi?
Je sais pas. Je l'ai comme pas essayé.
Tu t'es jamais vraiment abandonné à quelqu'un.
Non, c'est ça. Oui, là, je tends à le faire plus, là, mm-hmm. parce que c'est ça. Moi-même, je suis allée chercher de l'aide là, pour arriver à comme dépasser ça, puis arrêter d'être la petite fille blessée tout le temps. Parce que quand il m'arrive des gros coups, quand il m'arrivait en fait des gros coups, c'est que j'avais l'impression que je retombais la petite fille de 12 mm-hmm. ans, inconsolable, mais avec la même souffrance, la même peine. Là. Puis ça, mm-hmm. j'étais tannée de toujours me retrouver à la même place. Mm-hmm,
mm-hmm. Bien, c'est ça, pour en revenir à la femme responsable. Il y a beaucoup d'hommes qui aiment ça quand on a besoin ou qu'on demande. Non, mais c'est vrai. Puis c'est étrange que ces hommes-là te choisissaient justement parce que tu étais responsable. Puis en même temps qu'à un moment donné, ils ne voulaient plus de Hélène, la femme responsable. C'est quand même, c'est pas ça un paradoxe, c'est quand même étrange.
Ben oui et non, parce que moi-même, de mon côté, en choisissant quelqu'un qui avait besoin d'être sauvé, ben le moment où la personne était sauvée, ben moi, c'est comme si j'avais plus de challenge. Mm-hmm. Fait qu'il y avait comme un désintéressement de ma part aussi. Tu sais, c'est comme, ben, il n'y a plus de challenge. Là, tu sais, c'est plus la même personne où je m'attendais qu'un coup, j'aurais tout sauvé, qu'il prendrait soin de moi comme...
Mais tu voulais pas.
C'est ça.
Oui, oui, c'est un couteau à deux tranchants, ça.
Oui.
Est-ce que tu penses que les femmes qui ont vécu, même les hommes en famille d'accueil, ont été aussi, en fait, comment je pourrais dire, les blessures, en fait, qu'on a à cette période-là de notre vie restent tout le temps et déterminent, en fait, l'adulte que tu deviens?
Je crois que oui, ça détermine l'adulte qu'on devient parce que c'est le vécu pendant des années. Mmh. Je crois que ça peut avoir un impact tout au long de notre vie, mais qui peut être aussi positif. Tu sais, le travail que je fais aujourd'hui, c'est entre autres à cause de tout ça. Mmh. Fait que oui, ça a un impact dans notre vie. Puis ça permet aussi de t'sais, moi, ça m'a permis, en fait, de me développer, d'avancer, de me dépasser pour monter, pour montrer au monde, « Hey, moi, je suis capable. » Tu sais, malgré ce que j'ai vécu, je suis mm-hmm. capable. Mais tu sais, il y a plein de monde qui ne savent pas, même mes enfants ne savent pas tout ce que j'ai vécu. Non, mais mon père biologique est décédé, mais ma mère ne sait pas tout ce que j'ai vécu. Puis je pense que c'est la même chose pour mon frère et ma sœur. Mm-hmm. Tu sais, ils ne sont pas au courant de tout ce qu'on
mais
a vécu.
Pourquoi, pour avoir expliqué en détail à tes enfants ce que tu as vécu, c'était trop ou tu avais...
Parce que j'ai longtemps cru, puis je voulais pas qu'on me perçoive comme une victime. Mm-hmm. Puis je pensais,
pourtant, t'es pas une victime, Hélène, je te rassure. Tu sais, c'est pas parce qu'on traverse des périodes difficiles dans notre vie qu'on est victime. Je pense qu'on l'est quand on est dedans, mais après, quand on en ressort, c'est quand on fait quelque chose avec ça.
Oui.
Mais tu avais peur qu'il te voit comme une victime?
Oui, effectivement, tu sais. Qui me voit différemment de la maman que je suis, tu sais. Mm-hmm. Est-ce que c'est... Puis peut-être aussi pour plonger, tu sais, mm-hmm. De ne pas aller là, tu sais, du fait que j'ai réussi à m'en sortir, est-ce que j'ai le goût de ré-raconter ça, de mm-hmm. m'en aller là? Et,
de rester.
Puis il y a peut-être un peu de tout ça là, mm-hmm. qui a fait mm-hmm. le pourquoi ils sont pas tant au courant, là.
Bon, ben écoute, Hélène, reste avec nous. On va parler, après la pause musicale, de comment, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment on utilise ça pour devenir une femme résiliente?
OK.
Vous écoutez Terre de femmes avec Marthe Saint-Laurent.
Vous pouvez écouter nos émissions sur le site de Canal M, sur vuesetvoix.com et en balado. En deuxième partie de l'émission, nous poursuivons notre découverte fascinante avec une femme d'inspiration, Hélène Fortier, résiliente et intègre.
Assis tout seul dans mon salon, je lis le journal et je soupire. Encore des nouvelles à la con, fallait bien que je m'attende au pire. Et tremblement de terre et corruption politique sont à la manchette. Je réagis à ma façon à ce qui se passe sur notre planète. Et je me questionne vraiment à savoir où est-ce qu'on s'en va. Et sans être spécialiste, je suis capable de dire que j'aime pas ça. Je lève mon verre à ceux qui ont su rester debout et fiers. Je lève mon verre à une terre qui devrait être sans frontières. Je lève mon verre à ceux qui ont su ne pas se taire. Partout sur terre, les hommes repoussent les limites de l'enfer. Dans l'ignorance, les dirigeants voient plus grand que leur pense. À ma manière, je cherche à faire une différence qu'on pourra peut-être léguer à nos frères et à l'enfance pour être sûr de ne pas oublier. Soit au bord de la mer ou en plein cœur de notre Québec national. Levons-nous, levons nos verres. S'entraider serait juste normal. Serait juste normal. Je suis très optimiste qu'un jour on trouvera la bonne piste. Regardons à l'avant pour qu'il y ait un vent de changement. Je lève mon verre à ceux qui ont su rester debout et fiers. Je lève mon verre à une terre qui devrait être sans frontières. Je lève mon verre à ceux qui ont su ne pas se taire. Partout sur terre, les hommes font encore plus de misère. C'est à notre tour d'arrêter de faire semblant d'être sourd. Prendre un nouveau détour. Je rêve d'un demain qui sera juste et équitable. Se serrer la main pour arrêter tous les scandales. Je lève mon verre à ceux qui ont su rester debout et fiers. Je lève mon verre à une terre qui devrait être sans frontières. Je lève mon verre à ceux qui ont su ne pas se taire. Partout sur terre, les hommes font encore plus de misère. C'est à notre tour d'arrêter de faire semblant d'être sourd. Prendre un nouveau détour. Oui, c'est à notre tour. Oui, c'est à notre tour.
Je lève mon verre de William Delaurier. Alors, c'est pas encore le temps de lever notre verre, mais nous allons, Hélène, vers la résilience, donc je rappelle le thème, une femme d'inspiration avec nous. Hélène Fortier, intervenante sociale, qui a eu une adolescence marquée au fer rouge et qui est devenue résiliente. Donc Hélène, avec tout ce que tu as vécu, tu as décidé d'aller à l'université, tu as décidé d'emprunter cette voie-là d'aide. C'était ta façon de rebondir.
Oui, effectivement, mais en fait, j'ai décidé, ça c'est la vie l'a comme un peu décidé. Je travaillais en fait dans une usine il y a plusieurs années, puis j'ai eu un grave accident de la route où en fait, c'est ça, on m'avait dit que je ne remarcherais plus jamais. Je pouvais plus faire ce que je faisais. Et puis là, je me disais, voyons, ça a comme pas d'allure, je veux pas être chez nous à attendre. Puis rien faire. J'ai quand même fait de la physiothérapie pendant 5 ans, réapprendre à marcher, etc. Puis, mais ça faisait quelques années avant, je me disais, qu'est-ce que je fais d'une shop? Je suis une fille intelligente, j'aurais le goût de... Mais j'étais monoparentale avec 2 enfants, fait que tu lâches pas un job pour t'en aller étudier, en tout cas, quand t'es une fille responsable.
Ben oui, c'est ça, tout à fait, oui.
C'est ça. Fait que suite à ça, je me suis inscrite, là, je me suis dit, qu'est-ce que physiquement je vais être capable de faire, parce que j'avais quand même des limitations, et c'est là que je suis allée suivre un cours, mettons, formation à l'emploi, puis j'ai exploré un petit peu, puis je me suis dit, ah, en éducation spécialisée, en milieu scolaire, ça serait bien. Fait que je me suis dans un premier temps inscrite, mais ça n'a pas fonctionné, en fait, parce que les cégep, exemple, privilégiaient les élèves qui finissaient le secondaire avant.
OK. Puis toi, tu avais quel âge?
J'avais 28 ans quand j'ai eu ce grave accident-là. Fait que ce que j'ai fait, c'est que je me suis inscrite au cégep du Vieux-Montréal de soir. Et puis là, j'ai fait en fait mes cours. Puis l'année d'après, je me suis inscrite au régulier à Sherbrooke où j'ai été acceptée parce que dans la première année, il y en a qui abandonnent. Et là, j'ai suivi en fait toute ma technique en éducation spécialisée là, pour faire ce travail-là. Puis en même temps, là, je me suis trouvée comme un emploi rapidement. Puis pendant que j'étais intervenante justement en milieu scolaire, je sentais que j'avais comme des limites, puis le besoin, puis la fille responsable toujours que, ben, tu sais, là, qu'il faut qu'elle aide le plus possible. Fait que pendant que je travaillais à temps plein, je suis aussi allée à l'université où là, je suis allée me chercher un certificat en toxicomanie parce que je travaillais principalement avec des adolescents. Mm-hmm. Et ensuite, je suis allée me chercher un certificat en psychologie pour être en mesure d'être mieux outillée, en fait, pour aider les gens que j'aidais, là.
Est-ce que tu vois ça comme de la résilience? Qu'est-ce que c'est pour toi, Hélène, de la résilience?
La résilience, en fait, oui, c'est de la... En fait, je vois ça comme de la résilience. Pour moi, la résilience, c'est la capacité, en fait, de supporter moralement, mentalement, puis par moment physiquement, là, quand j'ai eu mon accident. En fait, les événements de la vie, les événements douloureux, mais qui nous permettent aussi de passer au travers, de foncer puis de passer au travers, en fait, des événements qui arrivent, justement. Là.
Donc, c'est de prendre les événements, on va dire, intenses et souvent négatifs et de se propulser, de faire quelque chose avec ça.
Oui. De s'en servir, en fait, justement, pour avancer, pour aller plus loin, là, tu sais.
Est-ce que le métier que tu fais maintenant, tu penses que ça a été dicté uniquement par ton parcours de vie, ou c'est vraiment, comment je pourrais dire, c'est quelque chose que tu as choisi pour, comment je pourrais dire, comme la passion, tu sais? Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais est-ce que tu penses, parce que souvent, c'est comme une espèce de réaction à quelque chose qu'on a vécu, puis après, on apprend à aimer ça. Mais toi, est-ce que tu penses que tu avais ça dans les gènes? C'est vraiment une passion et ça a été, comment je pourrais dire, amplifié avec ton parcours.
Oui, mais non. En fait, c'est la deuxième option, en fait, que tu disais. C'est la vie, c'est les événements qui m'ont amené là, parce que, tu sais, je me disais physiquement, il faut que je fasse quelque chose que je suis capable de faire physiquement, mais c'est devenu une passion. Mm-hmm. Tu sais, par la suite, parce que de travailler avec les gens, tu sais, en même temps, c'est comme si... Je m'en suis rendu compte au fur et à mesure dans ma pratique. C'est comme si, en faisant ça, je suis allée sauver des petites Hélène.
Oui, d'accord. Oui. Ah, c'est beau, ça. Et ça a fait en sorte que tu as développé une force de croire en moi, en mes capacités envers moi. Ça, c'est à partir de la résilience qu'on trouve ça?
Je pense que oui. Je pense que oui, tu sais, je lisais récemment là-dessus, je me disais, est-ce que c'est inné, est-ce que c'est appris, la résilience, tu sais, parce que, puis dans mon cas, mon opinion, c'est que ça a été appris, tu sais, t'as comme pas le choix,
on a toujours le choix. Il y a des gens qui choisissent pas la résilience, il y a des gens qui choisissent de rester victime.
Oui, effectivement. Mais ça, en même temps, moi, c'est tous ces événements-là qui m'ont amené à être résiliente. Peut-être qu'il y avait quelque chose à l'intérieur que je connaissais pas puis que j'étais pas capable d'identifier, mais effectivement, tu sais, tout ça m'a permis, en fait, de croire en moi puis de foncer dans la vie puis de m'affirmer, tu sais. Puis que je peux faire une différence, tu sais.
Là, tu le sais que tu peux faire une différence.
Oui, tout à fait. Mm-hmm. Oui, tout à fait.
Et quand tu as eu fini tes études, on revient un peu à te chercher encore quand même la reconnaissance de ton père.
Oui.
Et là, tu es allé le voir.
Oui.
Et raconte-nous ça.
Oui, mais je suis allée le voir, en fait, un peu avant de commencer, c'est ça, les études. Puis je suis allée le voir pour lui demander si j'allais au cégep, à l'université, est-ce que tu m'aiderais? Et la réponse que j'ai reçue, puis moi, je l'ai reçue comme un deuxième rejet, tu sais, un peu, tu sais, c'est comme, ben c'est pas n'importe qui va au cégep, à l'université.
Oui.
Fait que, tu sais, c'est comme...
Comment t'as reçu ça?
Ben, tu sais, c'est ton père, puis il croit même pas en toi, tu sais. Fait que, mais ça m'a pas comme arrêté. Puis, mm-hmm. puis peut-être que même ça m'a botté les fesses pour aller plus loin. Fait que ce que j'ai, quand j'ai fini en fait ma technique en éducation spécialisée, j'ai eu une belle photo de finissante avec mon diplôme. Je l'ai fait finir en 5x7. Mm-hmm. Je lui ai donné, mais j'ai écrit en arrière, tu m'avais dit que c'était pas n'importe qui allait à l'université puis au cégep. Mais t'as oublié que j'étais pas n'importe qui. Et je lui ai remis
Et est-ce sans que, plus. Est-ce que t'as eu un retour de ça?
Non, j'ai pas eu de retour de ça. Mais moi, j'ai eu la satisfaction, en fait, de lui dire oui, j'attendais comme de la reconnaissance quand je lui ai demandé. Mais tu sais, c'est dur quand ton propre parent ne croit pas... en toi, tu sais. Mais je me suis dit, si lui ne croit pas en moi, moi, faut que je... il y a quelqu'un
qu'il croit.
Parce que je ne pourrais pas avancer, tu sais.
Mais tu avais probablement un tempérament aussi très fort pour décider, justement, de rebondir plutôt que de te laisser engouffrer.
Mais effectivement, puis tu sais, je crois pas nécessairement à l'astrologie, mais il y a une partie où j'y crois dans le sens que je suis un bélier. Puis on voit rarement un bélier s'écraser ou pas dire, tu sais, pas s'affirmer ou pas foncer dans la vie. Fait que tu sais, en même temps, il y a comme effectivement probablement un peu de tout ça dans ma façon de foncer.
Et est-ce que tu penses que la résilience est acquise pour toujours?
Je l'espère. Puis mes expériences, puis mes réussites, puis tu sais, d'arriver à mes buts dans vie, en fait, c'est un bon point pour continuer à avancer puis d'y croire.
Reste avec nous, Hélène. On poursuit après la pause.
Années, des nuits complètes à essuyer, ces bandes blanches, ces grands vents de fumée, qui au matin se cachent sous ton lit de glace jusqu'à ce que tu reviennes, qui au matin se cachent sous ton lit de glace jusqu'à ce que tu
fait couper les
Laurence Jalbert pour toi. Nous sommes toujours en compagnie d'Hélène Fortier. Alors, Hélène, nous sommes rendus à la femme altruiste parce que, effectivement, tout ce beau parcours-là, jalonné d'épreuves, assurément, mais fait de toi une femme altruiste, une femme qui donne sans compter, donc avec toute la responsabilité qui vient avec et aussi le grand cœur et la volonté, en fait, de ne plus supporter les injustices.
Mmh. Effectivement. Les injustices, pour moi, je suis allergique. Là, des fois, j'explique aux gens là, qu'il y a des grands ongles qui me poussent les dents, m'allongent. J'ai de la misère avec ça, en fait, les injustices. Tu sais, je les défends, je les dénonce. Puis ça, c'est même au déprimant, en fait, de mes employeurs. Là.
Ah oui? Comment ça?
Bien, entre autres, si on prend l'exemple de mon dernier employeur, je travaillais en fait sur une communauté autochtone.
Oui, dans la région de cette île-là.
Oui, bien plus loin en fait, beaucoup, 5 heures plus loin. Mm-hmm. En fait, là, où la route 138 se termine.
Ah oui,
en fait, là, à Nutakouane avec des Inuits. Et puis, moi, ce que je connaissais de la DPJ avant de travailler là, c'était plutôt l'autre. J'étais de l'autre côté. C'est moi qui faisais signalement, mettons, quand j'étais en milieu scolaire. Oui. Mais là, en fait, c'est moi qui travaillais pour la DPJ et on doit en fait produire des rapports par rapport aux parents des enfants, par rapport aux familles d'accueil, etc. On doit fournir des rapports qu'on produit, en fait, pour le tribunal. Et dans mes premiers rapports, quand je suis arrivée, en fait, sur la communauté, il y a eu une période où il n'y avait pas eu d'intervenants. Donc, les familles n'avaient pas reçu les services qu'ils devaient recevoir de par la DPJ.
Oui.
Fait que moi, je l'ai écrit dans mon rapport et l'avocat de la DPJ de m'appeler et de me rappeler que je travaille pour la DPJ puis qu'on ne peut pas écrire des choses comme ça.
Okay.
Et moi, j'ai tenu mon bout puis je l'ai présenté mon rapport au juge en disant qu'en fait, si les parents n'étaient pas rendus où ils étaient, où ils devaient être rendus, mm-hmm. c'est parce qu'ils n'avaient pas eu les services dont ils étaient supposés d'avoir.
Mm-hmm.
Et c'est ça. Fait que tu sais, de se faire dire, oublie pas, tu travailles pour la DPJ,
mm-hmm.
mais moi, de répondre, avant tout, je travaille avec des personnes.
Ouais.
Puis ces personnes-là n'ont pas eu les services puis je ne raconterai pas n'importe quoi.
Ouais.
Parce qu'il faut garder une image de non, c'est pas vrai. Fait que...
C'est ça aussi, hein, Hélène Fortier, quand on dit résiliente et intègre, hein, tu as développé, ou en tout cas tu as de manière innée cette intégrité-là, puis là tu l'utilises dans ton travail, c'est-à-dire pour défendre les enfants, mais tu penses-tu que c'est pas juste parce que tu étais sur une réserve Inou que t'as défendu comme ça? C'est-à-dire tu le ferais n'importe où avec toute ta clientèle, en fait.
Oui, tout à fait. Bien, je l'ai fait tout le temps. Tu sais, j'ai travaillé en milieu scolaire avant, pendant 16 ans. Là. Moi, j'étais un peu comme le bout de ligne. Là.
Mm-hmm.
Quand ça fonctionnait pas avec les profs, puis toutes les mesures, puis les autres technicienne qui avait mis des choses en place, ça fonctionnait pas, ben je me retrouvais, ça se retrouvait là dans mon bureau en bout de ligne. Puis tu sais, j'ai déjà en fait, tu sais, je me rappelle à un moment donné un professeur qui vient me voir puis qui me dit: "Ah, tu penses que tu fais du bon travail, mais tel élève ne va pas bien."
Mmh.
Fait que moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai comme vérifié de cet élève-là auprès de tous ses profs. Et effectivement, il allait pas bien, mais seulement dans son cours.
Ah, d'accord.
Fait que mm-hmm. moi, je suis allée, après avoir fait mon travail, mm-hmm. puis avoir vérifié, j'étais allée voir ce même prof-là et je lui ai dit: "Écoutez, vous trouvez qu'il va pas bien, cet élève-là. Je vous confirme qu'il va pas bien, mais seulement dans votre cours."
Mm-hmm. OK, ouais.
Fait que, qu'est-ce que je peux faire pour que ça aille mieux pour vous,
mm-hmm.
avec cet élève-là, parce que tu sais, fait que, mais le défendre, parce que, tu sais, c'est facile, le prof vient de voir et dit: "Ah, ben, lui, mm-hmm. il va pas bien, je le veux plus dans mon cours."
Mm-hmm.
Non, 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 non.
Ouais.
Il va aller dans ton cours. Ce jeune-là a besoin d'être dans ton cours. Fait que, tu sais, mm-hmm. les défendre, puis auprès des directions aussi,
mm-hmm.
auprès
ouais.
des parents, tu sais, parce que ils font le bout.
Puis même les collègues, hein, tu prends aussi pour les collègues.
Oui, effectivement.
Justement, sur la Côte-Nord, tu
oui.
dirigeais, tu avais une équipe.
Oui,
et effectivement. Tu parlais en leur nom.
Oui, je parlais en leur nom, puis j'ai, encore une fois, je me rappelle une fois qu'une une de mes intervenantes qui m'appelle, qui était rendue comme en congé, puis qu'elle m'appelle, elle me dit, ben là, la procureure vient de m'appeler, puis il faut tout que je refasse mes rapports, parce que telle affaire n'est pas écrite, puis telle affaire n'est pas écrite. Tu ne referas pas les rapports. J'ai communiqué la procureure et sa supérieure, puis je lui ai dit, écoutez, ça fait tant d'années, en fait, depuis que je suis ici, on les a faites comme ça, ça passait. Je pense que vous êtes capable d'accepter cette fois-ci, puis on va se réajuster. Dites-nous les nouvelles règles, mais non, c'est pas vrai que... Fait que, tu sais, de défendre, là, tu sais, la fille, là, est en congé, puis tu sais, maintenant, pour avoir travaillé pour la DPJ, j'ai un autre regard vis-à-vis de ces intervenants-là, et je les respecte énormément. Oui. Parce que quand j'étais de l'autre côté... Je savais pas c'était quoi toute cette charge-là. Mm-hmm. Maintenant, je la connais.
Oui, là, tu as fait le tour de la roue, puis tu sais, à juste titre, la valeur et les exigences aussi hein, de chacun.
Tout à fait, tout à fait. T'sais. Puis le respect de ces personnes-là. Oui. J'ai vu dans des jugements que c'était écrit, exemple, une maman qui est schizophrène, puis c'était écrit « il faut qu'elle règle son problème de santé mentale ». Je trouve que c'est un non-respect. Ouais. Tu peux pas régler un problème de santé mentale, aller chercher de l'information, mais tu sais, on va priver une enfant de sa maman, puis la maman de son enfant, parce qu'on sait pas quand est-ce qu'il va avoir une autre crise. Tu sais, c'est stabilisé, là. C'est du respect, là. Ouais. T'sais. Fait que, tu sais, je défends tout ça, tu sais, puis je le défends
bec et ongle, hein? Bec et ongle.
Oui, tout à fait.
Et qu'est-ce que ça t'a appris, Hélène, de travailler avec les UNU? Qu'est-ce que ça a changé quelque chose dans ta vie?
Oui, ça a changé quelque chose, effectivement. C'est des gens avec une culture tout à fait différente de la nôtre. Ça m'a permis, en fait, ben, eux autres aussi des défendre dans le sens que des fois j'entends « Ah, oh, eux autres, là, ceux qui restent ces réserves, ils ont des maisons fournies, ils sont payés, ils travaillent pas, etc.
Ouais, »
Mais il y a pas grand... Je connais pas grand personne dans les allochtones chez les Blancs qui vivraient dans leurs conditions. Ils vivent sur dans un endroit, en fait, qui est petit. Les maisons où ils sont à peu près 15-20 dans chaque maison, l'équivalent d'un 4,5, tu sais. Puis ces personnes-là, ben, tu sais, comme à Nutakwan, c'est loin de tout, là. Oui. Fait que, tu sais, mais ce que j'ai appris aussi, c'est que la famille, la notion de la famille, pour eux, c'est tellement important. C'est pas comme nous, c'est pas comme nos règles à nous. On est dans la même province, dans le même pays, mais c'est différent, tu sais. Mais c'est beau, tu sais, je me rappelle, à un moment donné, une collègue, elle va au conseil de bande, pour ses assurances, puis que la madame lui dit, écoute, mets tes parents comme bénéficiaires, alors que nous, les Blancs, c'est pas ça qu'on fait, là.
Non. Ouais. Hélène, en terminant, ce serait quoi ton message d'espoir?
Et mon message d'espoir, c'est de en fait, je crois à la deuxième chance. Je crois que les gens ont tous, on peut tous les aider puis croire en eux. Mais tu sais, le message d'espoir, c'est croyez en vous. Entourez-vous des personnes qui vous apportent, qui vous apprécient. Ça, c'est important, tu sais.
Un immense merci, Hélène. On termine là-dessus. C'est tout le temps que nous avons. Donc, une belle heure que nous avons passée avec une femme d'inspiration, Hélène Fortier, résiliente et intègre. Merci. Merci à l'équipe sans qui cette émission ne serait pas possible. Catherine Bourderon à la recherche, Maurice Bolduc à la mise en onde et Louis Garon, chef d'antenne à Canal M. Merci tout particulier à vous qui nous écoutez d'une semaine à l'autre. Je vous souhaite une agréable semaine et je vous partage cette citation de Christiane Singer. Tout ce qui nous rencontre a un visage secret, a un message, même ce qui nous fait le plus souffrir nous délivrera un jour son autre visage. Rien ne nous est donné pour nous écraser. Ici Marthe Saint-Laurent qui vous dit à la semaine prochaine.
Merci.